Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture.
Alors bonjour, bienvenue à cette discussion sur la politique américaine dans le cadre de ce Salon du livre un peu particulier, complètement virtuel, en direct du Palais des congrès de Montréal. Je suis Alec Castonguay, je suis chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Je suis également analyste politique à la radio et à la télé de Radio-Canada. C'est moi qui vais être l'animateur de ce panel pendant la prochaine heure. Écoutez, il est 16h, je me suis même demandé si je fallait que je dise bonsoir ou bonjour. Alors le soir tombe sur Montréal, c'est l'heure de l'apéro. Et si j'étais pas en train d'allumer un panel, probablement que je me prendrais une petite consommation avec vous. Alors un bon rouge, un petit blanc, une bière, des grignotines, crottes de fromage peut-être, pour pouvoir passer la prochaine heure avec nous pour parler de politique américaine. Ça risque d'être passionnant, intéressant. On parle énormément de politique américaine en général, mais encore plus depuis une dizaine de jours. Avant de vous présenter les panélistes, je voulais juste vous rappeler, chers téléspectateurs derrière votre écran, que vous pouvez poser des questions. Il y aura une période de questions à la fin du panel d'une quinzaine de minutes, mais si vous avez des questions en cours de route que vous avez envie de poser, elles vont s'enregistrer, donc n'hésitez pas. Vous pouvez les adresser à un panéliste en particulier ou à tous les panélistes et je choisirai qui aura le privilège de répondre à votre question. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, politique américaine, l'Amérique de Trump, beaucoup, évidemment, parce qu'il est toujours là, il est toujours président. Sortant, on ne sait pas, mais il est toujours président. On va donc parler pendant la prochaine heure de ce qui s'est produit, les résultats électoraux, peut-être les dernières années aussi, à quel point la politique américaine a été modifiée par la présidence de Donald Trump et évidemment ce qui s'en vient avec probablement une présidence de Joe Biden. On verra bien, mais ça risque d'être le cas. Je vous présente donc nos trois panélistes. Je commence à ma gauche par Ginette Chenard, qui est coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Elle a vécu une quinzaine d'années aux États-Unis, notamment à Washington et à Atlanta, où elle a été en poste pendant 5 ans comme déléguée du Québec à Atlanta, en charge des 11 États du Sud des États-Unis. C'est elle, notamment, qui a écrit le livre que vous voyez peut-être à l'écran, le gros livre noir, qui s'intitule « Le Sud des États-Unis, rouge, blanc, noir », publié chez Septentrion en 2016, qui se veut un essai sur les particularités de la culture politique et de l'influence politique singulière de cette région du pays, des États-Unis. Alors, merci d'être là avec nous. Très apprécié.
Merci. Bonjour, Alec.
Bonjour. Élisabeth Vallet, professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean, professeure également associée à l'UQAM, directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. On peut également vous lire dans Le Devoir et vous entendre régulièrement à Radio-Canada. Vous êtes l'auteur de 2 livres récents, « Comprendre les élections américaines », publié chez Septentrion, et avec notre autre panéliste ici à ma droite, que je vous présente dans un instant, le livre « Comment Trump a-t-il changé le monde » aux éditions CNRS, coécrit avec Charles-Philippe David. Donc, merci d'être avec nous. Très gentil. Et je termine avec l'homme à ma droite, qui est quelqu'un avec qui je discute depuis plusieurs années maintenant. On faisait le petit bilan tout à l'heure avant d'entrer en onde, quoi, presque 16 ans, où on s'appelle régulièrement pour discuter de politique. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis et professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, auteur, comme je le disais avec Élisabeth Vallet, de « Comment Trump a-t-il changé le monde », un essai qu'ils ont coécrit pendant le confinement, d'après ce que je comprends. Vous aviez du temps pour réfléchir, penser. C'était fort intéressant. Et auteur également, du côté de Charles-Philippe David, du livre « L'effet Trump, quel impact sur la politique étrangère des États-Unis », publié en 2017 aux presses de l'Université de Montréal. Merci d'être là. Bienvenue à vous trois. Je commencerai peut-être la discussion par ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, depuis donc le 3 novembre. Il s'en est passé des choses, ma foi. Êtes-vous surpris des résultats? Moi qui suis la politique étrangère et la politique américaine C'est pas ma spécialité, mais je suis ça quand même assez assidûment. Je pensais que ce serait peut-être un peu moins serré que les résultats l'ont démontré. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Tiens, je commence par vous, Charles-Philippe David, parce que j'étais le dernier à vous présenter. qu'est-ce qui vous a marqué dans les résultats du 3 novembre dernier aux États-Unis?
Ah ben alors merci, et merci Alec d'être là. Petite correction, le livre « L'effet Trump » est de 2020, il vient d'être publié.
Oui, c'est ça, mais c'est ton précédent qui était en 2017.
Oui, ça voilà. C'est exact. Sautons dans le vif du sujet. Oui, j'ai été à la fois surpris et pas surpris. Dans le pas surpris, moi, je pensais que Biden allait gagner. Je ne savais pas, comme tout le monde, s'il allait gagner facilement ou difficilement. Je reprends la même expression que j'ai utilisée dans les médias, je pense, dans la semaine qui a suivi, avec toujours la même question, quelles sont vos prédictions?
Ouais.
Et donc, clairement, le scénario plus difficile, vraiment, s'est produit. Mais au final, et après quelques jours maintenant, de plus d'une semaine maintenant, c'est passé. Je te dirais, quand même, entre 5 et 6 millions de votes de plus, c'est tout de même une plus belle victoire que au niveau du vote populaire que celle que Mme Clinton aurait eue. Ensuite, dans ce qui compte beaucoup, je pense que tout le monde maintenant à la maison comprend où c'est qu'il faut calculer comment un président gagne en fonction du collège électoral, du fameux nombre de 270. Finalement, c'est peut-être une surprise dans un sens, un peu moins serré qu'on l'aurait imaginé, parce qu'il a exactement le même nombre de grands électeurs que Donald Trump il y a 4 ans. Et il avait prétendu que ça avait été une victoire extraordinaire de sa part.
Sûrement une des plus importantes de l'histoire des États-Unis.
Exactement. Alors, retournons-lui la faveur. Il a eu, au fond, Biden, le même résultat que Donald Trump. Et puis, ils se sont échangés, là aussi, au niveau des surprises. C'est vrai que la surprise de 2016 avait été que Trump gagne les fameux États du mur démocrate.
Ouais.
Mais là, quand même, Joe, tout de même, a été chercher 2 États tout à fait nouveaux pour les démocrates, n'est-ce pas? J'ai en tête la Géorgie, j'ai en tête l'Arizona, qui n'étaient pas des États qui leur étaient acquis il y a 4 ans ou il y a 8 ans. Dans certains cas, ça faisait très longtemps qu'ils avaient gagné de tels États. Donc, on pourrait quand même dire qu'il a tout de même fait des percées. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est sûr qu'il y a des déceptions du côté démocrate, parce que si on s'attendait à une vague bleue, la vague bleue, malgré les 5 millions que j'ai évoqués, ou 6 millions, il est vrai que ça n'a pas été un raz-de-marée, parce qu'il y a quand même 72 millions d'électeurs et d'électrices qui ont voté pour Donald Trump, alors qu'il y en a pour 78 qui ont voté pour Joe Biden. Mais il y a quand même 72 pour Donald Trump. Alors, il est vrai que le Trumpisme n'a pas du tout été défait. Biden a bien gagné, moi je pense que ça c'est clair, mais il y a quelque chose qui reste de ces élections avec un goût amer, c'est de dire, malgré la crise pandémique, malgré la crise économique, malgré la crise raciale, malgré un président qui a failli être destitué au fond, avec tout ça, il a quand même trouvé qu'il y a 72 millions de personnes qui ont dit « bravo, good job, good president » et qui ont voté pour lui. Alors, j'espère avoir ouvert ici la discussion à beaucoup de...
Quand je disais serré, c'est vrai qu'on regarde le collège électoral puis finalement, c'est pas si serré que ce qu'on avait pensé. Mais quand on regarde Wisconsin par 21 000, puis quelques dizaines de milliers en Pennsylvanie, 11 000 en Arizona, 14 000 en Géorgie... Tu mets tout ça ensemble, on dit, écoutez, il y a presque 100 000 Américains qui ont vraiment décidé là, du sort des États-Unis sur 320 millions de population. Et c'est peut-être ça que les gens ne s'attendaient pas, à ce qu'on soit obligé de rester la nuit debout pour voir, mon Dieu, est-ce qu'en Géorgie, là, il va se passer quelque chose? Et peut-être que pour ça, les gens ont l'impression que ça finit finalement était plus serré qu'on le pensait. Mais c'est vrai qu'effectivement, au final, le vote populaire est moins serré. Mais dans chacun des États clés, ça a été quand même assez chaudement disputé.
Et puis, il y a peut-être aussi une espèce d'illusion d'optique, parce qu'on avait dit, on présumait qu'il y aurait ce mirage rouge lié au vote par correspondance.
Ouais.
Et puis ensuite, cette vague bleue, on en avait parlé, on l'avait imaginé, on n'était pas sûr.
Et elle s'est produite.
S'est produite. Puis quelque part, c'est pas vraiment une défaite au niveau présidentiel. Le différentiel est quand même important entre les deux. Donc, c'est intéressant que l'on dépeigne la victoire de Joe Biden comme une défaite, alors que fondamentalement, c'est une victoire. Et avec la Géorgie et l'Arizona, c'est une énorme victoire. Mmh. En fait, la défaite, elle n'est pas là. La défaite, elle est dans les autres élections. Le fait qu'il n'ait rien renversé au Sénat pour l'instant, le fait qu'il n'ait rien gagné à la Chambre des représentants, le fait qu'il n'ait rien gagné au niveau de la législature fédérée, et c'est ce que disait, je pense, le gouverneur d'Arizona, c'est les gens ont voté républicain. Ils n'ont juste pas voté pour Trump.
Ouais. Et Ginette, vous avez été en poste à Atlanta, en Géorgie. Vous connaissez bien les États du Sud. Ça a été parmi les surprises de ce résultat-là du 3 novembre. Des États qui, comme la Géorgie, n'avaient pas voté depuis, 92, je pense, pour un démocrate. Exact. 96 dans le cas de l'Arizona. Bon, même le Nevada, maintenant, ça semble un État démocrate, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, même au Texas, ça a été assez compétitif quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec nos États du Sud, ma foi? Oui. Il y a des surprises?
Mais je dirais qu'il y a eu un grand mirage à l'égard des États du Sud. Personnellement, peut-être parce que je m'y intéresse davantage que les autres régions du pays. Parce qu'on a laissé les sondages et les évaluations des stratèges et les évaluations de tous ces experts laissaient entendre qu'il y aurait beaucoup de changements dans le Sud, hein? Non seulement au présidentiel, mais aussi par l'élection de certains sénateurs, Donc, à mon avis, il y a eu un grand mirage. Pourquoi? Parce que, au départ, on aurait pu s'attendre que les trois États, enfin, qui étaient les États qu'on appelle les États
pivots.
Qu'on a connu depuis 2008, la Virginie s'est déjà décidée, c'est un État bleu. Mais les deux autres États, la Caroline du Nord et la Floride, on aurait pu s'attendre à ce que dans ces deux États-là, on poursuive dans l'esprit d'une supposément vague bleue qui devait arriver. Ça ne s'est pas passé. En plus, et la surprise dans les États du Sud, ça a été la Géorgie. Personnellement, je n'aurais jamais prédit ça. Mm-hmm. Mais je voyais quand même un mouvement depuis quelques années en Géorgie où ça, faut pas oublier qu'en 2008, au moment de l'élection de Barack Obama, la Géorgie avait quand même voté 47% pour Barack Obama. C'était surprenant. Moi, je vivais à l'époque justement à Atlanta. C'était toute une célébration qu'il y a eu à Atlanta. À Atlanta, peut-être pas dans le reste de l'État. Mais aussi, en ce qui concerne les autres États, je dirais les élections de sénateurs, il y a une grande déception. Moi, je suis très déçue que la Caroline du Nord n'ait pas poursuivi sur une voie du progressisme qu'elle a déjà, qu'elle avait entamée en élisant un gouverneur, par exemple, parce que c'est un État qui a été complètement gobé par le Tea Party à partir de 2010. À tous les échelons du pouvoir, ils ont perdu à la fois les sénateurs, la Chambre de représentants et ainsi de suite, les chambres d'État exactement. Donc, petit à petit, on voyait un espoir. Ils n'ont ni gagné au présidentiel, les démocrates n'ont ni gagné au présidentiel, ni pour l'élection du sénateur que j'imaginais avait des chances de gagner. Donc, ça s'est perdu. Et au Texas, Bien sûr qu'il y a des gains démocrates au Texas parce que Donald Trump avait gagné en 2016 avec 9 points d'avance. Ça a baissé à 5 points, bon, etc. Moi, je dirais que dans le Sud, ce qui me fascine et qui m'a fascinée, c'est la mobilisation. La mobilisation de certains groupes. Et ça se fait depuis les années 2010 et on a vu que le résultat en Géorgie est flagrant en termes de résultats de mobilisation parmi les femmes afro-américaines, les afro-américains aussi, mais les femmes en particulier qui ont voté 91% là, pour Joe Biden, mais aussi les afro-américains, donc les latinos, une petite 10% de latinos aussi donné leur vote à Joe Biden. Et les jeunes, on n'en parle pas suffisamment, mais les jeunes et les indépendants, ce sont des gens qui ont beaucoup plus penché en Géorgie en faveur des démocrates, parce qu'on ne sait jamais, les indépendants, ils vont entrer à gauche et à gauche. Et la différence entre la Floride et la Géorgie, c'est qu'en Floride, le vote des indépendants a été davantage favorable à Donald Trump, qui a mobilisé ses troupes depuis 2016, parce que c'est son État d'adoption, et il a tellement travaillé, ils ont refait l'enregistrement de beaucoup de nouveaux électeurs sur les listes électorales et on a vu la différence.
Ah, il joue au golf en Floride.
Exactement.
Donald, pendant qu'il a appris les résultats. Mais juste pour terminer sur le Sud, parce qu'on se retrouve avec, dans le fond, c'est les grandes villes qui ont choisi, qui ont déterminé, c'est Atlanta, entre autres, notamment, c'est Phoenix, c'est... On reproduit ce qu'on voit dans les autres régions du Nord, c'est-à-dire que les villes, les centres urbains, les jeunes sont beaucoup plus démocrates. Peut-être que la différence avec les précédentes élections, c'est que là, ils sont allés voter, le taux de participation était énorme.
Ouais, énorme.
Est-ce que ces villes-là vont se rendormir la prochaine fois? Est-ce que ça va rester un état pivot, la Géorgie, par exemple? Ouais, est-ce que ça va rester quelque chose d'intéressant à suivre?
Ça, c'est la question clé. Est-ce que la Géorgie est définitivement un état pivot comme, je dirais, la Floride? Mm-hmm. On verra. Mais ce n'est certainement pas un état bleu. D'accord?
On s'entend.
Pourquoi? Parce que on verra... là, maintenant, au présidentiel, c'est gagné pour Biden. Mais on verra au Sénat s'ils arrivent à élire au moins un.
Parce que là, il y a deux sièges qui retournent en jeu parce que l'écart était trop mince.
Parce qu'ils n'ont pas 50% des suffrages. Donc, il faut aller en élection pour les deux. C'est très rare, c'est unique parce qu'il y a une élection qui était prévisible dans le cas de sénateur Perdue, républicain, mais dans l'autre cas, c'est un sénateur républicain qui a dû
démissionner. Ça risque d'être la course au Sénat la plus chère de l'histoire.
Oui. Probablement.
Il va se dépenser des dizaines et des dizaines de millions en publicité parce que c'est là que va se décider la majorité sénatoriale. Ouais. Donc.
Et donc, le Sénat à voir d'ici le 5 janvier, mais la délégation à la Chambre des représentants reste majoritairement républicaine. Ouais. Les deux chambres des États, le gouverneur, c'est républicain. Donc, pour parler d'un État bleu et encore moins...
On est dans le bleu poudre, là.
On verra. Okay. Alors qu'en Arizona, vous avez... complètement l'inverse, alors que c'est un État qui a basculé presque totalement en faveur des partis démocrates, c'est-à-dire qu'à la présidentielle, les deux sénateurs sont démocrates, la délégation à la Chambre est majoritairement démocrate et au niveau de l'État, ils ont au moins une Chambre aussi qui est démocrate. Ce qui est vraiment surprenant, plus que peut-être en Géorgie.
Avez-vous un petit mot à dire, Elisabeth, Charles-Philippe, avant?
Moi, ce que je trouve intéressant à propos des jeunes, parce que tu posais la question, c'est qu'il y a 23 000 jeunes qui avaient 17 ans le 3 novembre et qui auront 18 ans le 5 janvier en Géorgie. Donc, il y a toute une tranche de la population qui va pouvoir aller voter le 5 janvier, puis qui pourrait peut-être, s'ils se mobilisent, faire basculer l'élection. Donc ça, c'est un élément intéressant. La raison pour laquelle on parle des jeunes aussi là, c'est que pour la première fois, les baby boomers sont moins nombreux que les millennials et la génération Z commence à représenter pratiquement 20% de l'électorat. Donc on est rendu dans une société qui est très jeune. C'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle vote progressiste, mais ça change un peu la manière dont on doit regarder l'électorat, puis la manière aussi dont l'électorat se fissure. On a beaucoup parlé des blocs hispaniques, des blocs afro-américains, mais en fait, on se rend compte qu'il y a les mêmes fractures générationnelles qu'ailleurs. Donc, l'électorat est en train de changer sous nos yeux.
Ouais. Ouais. Mais clairement, le Parti démocrate attire plus les jeunes, si on se fie au sondage des pôles de sortie, comme on dit, du vote du 3 novembre. Clairement, Biden a gagné largement le vote des jeunes. Mais ce que vous disiez et ce que disait Ginette particulièrement, de parler de l'Arizona et de la Géorgie qui changent un tout petit peu de coloration politique, c'est dire à quel point l'échiquier est en profonde transformation actuellement. À mon avis, l'avenir en tant que tel est au Parti démocrate parce que c'est quand même un parti arc-en-ciel qui peut aller chercher de plus larges franges de la société, qui peut aller chercher l'avenir du vote notamment des jeunes, qui est un peu plus progressiste, qui regarde l'avant, pas derrière, et qui correspond surtout à la démographie changeante de ce pays. Tu l'as évoqué, Alec, en parlant des villes. Ouais. Quand on regarde le nombre de comtés qu'a gagné Joe Biden, c'est une poignée de comtés, au fond, qu'il a gagné. Mais ça donne que ces comtés-là sont tous dans des villes.
Il y a beaucoup de monde qui y vivent, oui.
Tandis que Trump a gagné des centaines et des centaines de comtés, mais ils sont très dispersés dans l'Amérique rurale. Ouais. Et je pense que c'est parce que au fond, le Parti démocrate est le parti d'avenir, que ça pose un problème énorme pour le Parti républicain, que ça accroît la fracture ou les fractures politiques aux États-Unis. Ouais. C'est que, qu'est-ce que vous voulez, il y a une forme, bon, on va l'appeler d'Amérique nostalgique, qui se dit, c'est pas vrai qu'on s'en va vers ça, il faut préserver ce que nous avons toujours été. Et le toujours été, Donald Trump arrive avec ses propositions depuis 4 ans qui sont celles de sauvegarder l'identité des États-Unis en dénonçant tout ce qui est immigration, par exemple, illégal, de sauvegarder le niveau de vie ou le moyen de vie traditionnel des Américains parce que la mondialisation a fait mal dans les États autour des Grands Lacs. Ce discours-là est un discours en voie de disparition, à mon avis, mais il est très utile pour ce parti républicain pour lui-même fédérer les forces un peu traditionnelles
des États-Unis qui résistent au fond aux forces de l'avenir qui vont transformer inévitablement, ouais, démographiquement, économiquement, sociologiquement, ce pays-là. Alors, on est un petit peu comme, au fond, on vit un moment de séisme et on est un peu à ground zero, au cœur de ce tremblement de terre qui secoue les États-Unis et qui peut aller dans tous les sens.
Oui, on le vit d'ailleurs au Canada aussi. Là, je fais une petite parenthèse, mais les villes actuellement, la grande difficulté du Parti conservateur, c'est d'être compétitif dans les villes.
Oui.
En campagne, ils sont très forts. C'est l'inverse pour les libéraux. Donc, c'est les banlieues qui décident grosso modo des élections. Oui. Puis on le voit un peu aux États-Unis aussi. On se demandait, est-ce que les banlieues qui avaient souri à Trump vont sourire à Biden cette fois-ci? La révolution des banlieues, la révolte des banlieues contre Donald Trump. Puis là, ben, c'est dans le pourtour d'Atlanta, dans le pourtour de Philadelphie, oui, que finalement, le vote a augmenté. Puis lui a donné par la peau des dents ces états-là. Mais avant de scruter ce qui s'est passé le 3 novembre, je voudrais qu'on se concentre quand même un peu sur ce qui se passe actuellement. Parce que là, les gens nous écoutent puis ils, oui, disent, mais il y en a encore un qui est là, puis il ne veut pas laisser la place, puis qu'est-ce qui se passe? Donc, Elisabeth, je lisais votre chronique ce matin dans Le Devoir, vous parliez de zone de turbulence. On n'a pas vu ça si souvent quand même, l'intensité de ces turbulences-là. Est-ce que Donald va s'accrocher encore longtemps? Est-ce qu'il est capable de s'accrocher même?
Ben, d'abord, il est président jusqu'au 20 janvier à midi. Oui. Donc, il a toutes les raisons de rester...
De prendre son temps.
De prendre son temps. Il peut utiliser l'intégralité des pouvoirs. Il n'est pas président à mi-temps. Il est, pas, il est pleinement président avec tous les pouvoirs que ça suppose, avec tous les pouvoirs de création, mais les pouvoirs de destruction dont il dispose. Mais le 20 janvier à midi et une, Donald redevient Donald. Il redevient un citoyen ordinaire qui est sur le site de la Maison-Blanche, et on peut considérer qu'il n'a plus à y être, donc il pourrait être reconduit manu militari. Ça n'arrivera pas. Mais
ça n'arrivera pas. Moi, je m'attends à tout avec Donald Trump. Il me semble qu'on a tellement dit souvent « ça n'arrivera pas », puis c'est
vrai,
toujours,
hein,
produit des choses avec lui. Mais d'une question plus technique, vous évoquiez dans votre chronique ce matin toutes sortes de scénarios qui circulent, notamment on pourrait essayer de faire pression sur les grands électeurs pour qu'ils ne respectent pas, entre autres, le vote des États. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que le système américain, dans toutes ses imperfections, pourrait cette fois-ci être favorable à Donald Trump, ou c'est des vues de l'esprit, ça?
C'est une vue de l'esprit, mais ce dont on parle spécifiquement dans ce cas-là, c'est le cas de la Pennsylvanie, où on imagine, par exemple, que la législature républicaine, qui a été particulièrement vindicative à certains égards, puisse dire, nous, on n'est pas d'accord avec le résultat que le gouverneur certifie, qui est un résultat donc, qui amènerait la liste de grands électeurs de la Pennsylvanie pour Biden au collège électoral. On n'est pas d'accord avec ça, on va soumettre notre propre liste. Ça tient pas parce que ça contrevient à la loi de l'État. Le seul moment où la législature peut intervenir, c'est si, pour une raison ou une autre, il n'y avait pas de résultat, si l'élection n'avait pas eu lieu, s'il y avait eu un séisme tel qu'on n'aurait pas pu pouvoir ouvrir tous les bulletins de vote, etc. Là, c'est pas le cas. Donc, même s'il s'essayait, je pense que ça tiendrait pas en Cour suprême simplement. Là. C'est devant la Cour suprême de l'État de Géorgie, ça tiendrait pas.
Donc, il n'y a pas de manière, si le recomptage ne lui est pas favorable, il n'y a pas de manière autre pour s'accrocher.
Mais en fait, ce dont on a beaucoup entendu parler, et c'était la rumeur, c'était la notion de coup d'État. Et la notion de coup d'État n'a pas lieu d'être. Il n'y aura pas de coup d'État. Un des arguments qui est utilisé, mais qui est un argument qui est complètement fou, c'est celui que l'armée ne se rangerait pas derrière Trump. Le chef d'État-major a dit « on est du côté de la Constitution ». Alors les gens poussent un soupir de soulagement en disant « ah ben l'armée est... » Mais c'est terrible. Terrible que l'on puisse imaginer que l'armée doive prendre part, choisir un camp ou un autre. Parce qu'à partir du moment où on politise l'armée, on ouvre une boîte de Pandore, et les démocraties où l'armée s'est mobilisée pour la sauver, ça ne s'est jamais bien terminé.
Non, en général, c'est pas bon signe.
je pense que ça n'arrivera pas. Ce scénario-là n'arrivera pas. Je parlerai pas de coup d'État. Moi, je parlerai plutôt de coup d'éclat. Ça, attendez-vous à des coups d'éclat. Ou alors, Donald Trump est un être beaucoup plus dépressif que ce qu'on connaît et qu'il n'est pas si hyperactif qu'on l'a connu au moins depuis 4 ans.
ans. Qu'il fasse des coups d'éclat, ça, j'en suis assez convaincu, je m'y attends. Mais déjà, les coups d'éclat qu'il aurait pu faire, c'est tout en train de mourir au feuilleton. Hein. Le recomptage, les poursuites judiciaires dans les États pour essayer de savoir si, au fond, il n'y avait pas des votes qui pourraient être contestés, etc. Ouais. C'est en train de disparaître ou de s'envoler en fumée les unes après les autres. Il y a presque à peu près aucune contestation aujourd'hui, au moment où on se parle, au Salon du livre, qui est envisageable. Alors, à moins d'une surprise colossale, c'est pas en Pennsylvanie, c'est pas au Michigan, c'est pas au Wisconsin, c'est pas en Arizona et c'est pas en Géorgie, pour l'instant, qui est envisageable qu'il y ait des contestations telles qu'il puisse faire un coup d'éclat. Maintenant, après ça, évidemment, le 14 décembre, comme Elisabeth a dit, c'est le moment, ça passe ou ça casse, parce que les grands électeurs vont se prononcer. Ben, normalement, il y en a 306 qui devraient aller du côté de Joe Biden. Mettons qu'il en perd un parce qu'il y a quelqu'un qui est très choqué ou très mal luné cette journée-là, parce que c'est déjà arrivé, un faithless électeur.
Ou qu'il se trompe. C'est déjà arrivé. Ouais.
C'est le cas de le dire, qu'il se trompe. À ce moment-là, oui, mais ça change rien au résultat. Si ça avait été 270 pour Biden. C'est ça. Là, on aurait calculé, chaque grand électeur aurait compté dans le au 14 décembre. Alors moi, je pense que le 14 décembre au soir, si le résultat c'est 306, il y a rien que Donald Trump peut faire, sauf les décisions qu'il prend, qui va laisser son successeur dans l'embarras, en difficulté, avec une situation vraiment. Il pourrait même décider de certaines actions pour lesquelles le nouveau président entrant en exercice dit « Oh, yo, yo, il a décidé de ceci sur l'Iran, il a décidé de cela sur la Russie, il a décidé de cela sur le contrôle des armements, etc., etc. »
Mais Ginette, justement, les Américains ont toujours été assez bons pour se montrer comme étant une espèce de guide planétaire pour la démocratie. Hein. Les valeurs américaines, ils en parlent beaucoup. Qu'est-ce que ça dit, ça? Les autres pays qui regardent les États-Unis comme ça et qui regardent Donald Trump s'accrocher au pouvoir, se demander s'il n'y a pas eu des fraudes à grande échelle. Est-ce que c'est... Pour l'image américaine dans le monde, ça donne quoi les derniers jours?
Oh, c'est clair que lorsqu'on regarde les sondages, par exemple, établis par le Pew Research Center, on se rend compte que ça fait longtemps que l'opinion mondiale a décliné à l'égard des États-Unis et le facteur principal, c'était Donald Trump. Il y a eu d'autres moments avant, durant la guerre en Irak, etc. On a vu la montée d'un anti-américanisme, mais avec Donald Trump, on n'a pas vu nécessairement la montée d'un anti-américanisme. On a vu des étonnements et en même temps des incompréhensions à l'égard du comportement du président. Donc, c'était anti-Trump et non pas nécessairement anti-Amérique. Donc, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent à l'heure actuelle de ce changement de pouvoir. Mais pour revenir à Donald Trump, moi, je pense pas que Donald Trump et le Trumpisme, on peut dire, c'est un mouvement, ça n'est pas un parti politique. Je pense que ça va disparaître. Et gobé par le parti, comme le parti républicain.
J'ai une question de quelqu'un qui nous écoute en disant, est-ce que la fin de Donald Trump veut dire la fin du Trumpisme? Son mouvement va lui survivre?
Non, ça ne va pas survivre. C'est-à-dire que le mouvement est déjà gobé par le Parti républicain, de la même façon que le Parti républicain a gobé d'autres mouvements précédents. On parle de la révolution Reagan, la déconstruction de l'État. Trump n'a fait qu'accélérer la déconstruction de l'État-providence. Les mouvements sous les deux présidents Clinton et Obama. On a vu le mouvement Gingrich qui aussi voulait accélérer et transformer le fonctionnement du Congrès à la Chambre des représentants en particulier. Et l'obstruction, c'est né à ce moment-là. Enfin, s'il y en avait avant dans l'histoire, mais c'est récemment, c'est cette histoire-là. Mais sous et le mouvement du Tea Party, c'est un autre mouvement.
Oui, on n'a pas pu parler du Tea Party.
Mais ils sont tous encore là. Ouais. Les Marco Rubio et les gens de ce calibre-là sont tous là au Sénat et à la Chambre des représentants. On parle du Freedom Caucus qui s'est transformé en Freedom Caucus, mais c'est toujours des gens qui sont à l'extrême droite de l'échiquier républicain, qu'on peut dire. Donc, Trump est un perdant. Dans la culture américaine, on n'aime pas les perdants. Donc, il va disparaître.
Vous ne pensez pas qu'il peut se représenter en 2024? Certains lui prêtent ces intentions-là.
Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui a perdu une élection puisse se représenter et qu'on puisse favoriser sa réélection. Il y a d'autres joueurs, d'autres sauveurs et peut-être même d'autres gens qui vont porter encore plus la radicalisation, la polarisation, encore plus à l'extrême que Donald Trump l'a fait. C'est possible parce qu'on s'imagine qu'à un moment donné, ça va imploser. Mais non, le parti n'a pas implosé. Donc, est-ce qu'il y aura l'influence d'autres militants du Républicain qui vont influer sur le Sénat et l'institution du Congrès en général pour dire, ben, écoutez, là, la polarisation, ça a été un peu trop loin. Il faudrait peut-être recentrer un peu les orientations du parti. On va voir. Mais moi, je ne vois pas Donald Trump en 2024. Je pense qu'il aura beaucoup de problèmes à régler entre-temps. Et il y aura d'autres.
Judiciaires, entre autres, oui.
Et d'autres qui vont se pointer.
Mais Jean-Philippe, je t'entendais réagir à ma droite. Est-ce que tu es, toi, convaincu qu'il ne se représentera pas ou as-tu un petit doute?
Ben alors, pour ceux et celles qui penseraient qu'à l'Observatoire, on a une pensée unique, c'est pas le cas. Et moi, je suis pas tout à fait du même avis que Ginette, que j'aime beaucoup. Là-dessus, je pense que je suis d'accord avec toi que tu as dit le Parti républicain a gobé le trumpisme. Moi, je le vois un peu en sens inverse. Le trumpisme a gobé le Parti républicain. Alors, peut-être que la manière qu'on pourrait répondre à la question, c'est de dire Trump a tellement capturé ce parti que lui, parti, ce parti-là s'est transformé. C'est un parti maintenant qui a vraiment souscrit presque, je dirais, à cette manière trumpiste de faire. C'est-à-dire, d'abord, le populisme. Quand j'entends les déclarations cette semaine, pour ne mentionner que celle-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de Ted Cruz et de Marco Rubio que tu as cité, et il y en a d'autres, qui donne quasiment raison à Donald Trump dans sa façon de juger des élections et des suites. Quand on voit son secrétaire d'État, Mike Pompeo, se comporter comme plus Trump que lui-même en prétendant qu'il se prépare pour un deuxième mandat d'administration républicaine, je me dis, Trump peut s'effacer. Les petits de Trump font le travail à sa place de propager une façon de voir que je trouve très populiste, qui est fondée aussi sur des nouvelles assez tronquées, des interprétations constitutionnelles et politiques assez bizarres, qui prennent pied dans cette société. L'idée aussi de défendre une classe identitaire aux États-Unis, pour ne pas la nommer, et qui est d'associer ce parti-là tellement à une cause, qui est la cause de la survie, je vais le dire, des Blancs des États-Unis, c'est une manière de concevoir un parti qui n'a plus rien à voir avec le parti qu'on a connu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sous George W. Bush, sous George H. Bush, sous même Ronald Reagan, qui avait quand même réussi en 1984 à se faire élire dans tous les États, gagner tous les grands électeurs, sauf celui de son adversaire. Il était quand même magnanime, hein, Walter Mondale. Un État. Dire à quel point une coalition républicaine de cette nature est absolument inenvisageable et impensable à l'avenir. Je sais que vous allez me dire qu'il y a des Hispaniques qui ont voté plus pour Trump. C'est très vrai. C'est une communauté très divisée. Il a gagné un peu plus aussi de la communauté afro-américaine. Ça, c'est vrai. Il y a des facteurs qui sont à expliquer là-dedans. Mais globalement, moi, j'ai l'impression que oui, d'abord, il pourrait presque s'auto-pardonner et donc éviter peut-être une partie des poursuites judiciaires. C'est quelque chose qui est en discussion actuellement. Je m'attends à un coup d'éclat. Ça pourrait en être un.
Parce qu'il pourrait, continuer à influencer la politique américaine. Il y en a qui parlent de créer son propre réseau de télévision. Il pourrait... À la limite, la marque Trump est tellement plus forte même que tout. Il pourrait se présenter comme indépendant si les Républicains veulent pas d'eux. Puis, bon, les démocrates seraient contents, ça diviserait le vote. Mais lui, je pense que ça ne se stresserait pas avec ça. Mais est-ce que maîtrise, mais du moins la manière dont il utilise les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une partie prenante très importante des campagnes électorales. Puis j'ai une question là-dessus de quelqu'un qui nous écoute en disant « En 2016, on a beaucoup dit que les réseaux sociaux avaient joué un rôle dans la polarisation de l'électorat américain. Est-ce qu'ils ont joué le même type de rôle cette fois-ci, peut-être à l'avantage de Biden, ou au contraire, ça a permis à Donald Trump d'aller chercher un nombre de votes record pour quelqu'un qui a perdu? Comment vous avez vu l'influence des réseaux sociaux cette campagne-ci? »
C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant à propos de la campagne des réseaux sociaux et de ce que Trump pourrait faire, c'est que je gère beaucoup mieux l'équipe des Canadiens assise dans les estrades que sur la patinoire. C'est ça. Ouais. Alors, lui, en 2024, dans la perspective de 2024, assis au milieu de son terrain de golf, en train de tweeter comment Biden gère super mal la pandémie, ça va être facile dans un sens. Sa position va être beaucoup plus agréable pour 2024. Donc, dans cet esprit-là, si je choisissais de se représenter, même s'il est perdant, il peut arriver à se représenter comme gagnant. Mais je suis pas en désaccord avec Ginette ni avec Charles, mais en général, je compte les points entre les deux. Mais
ça aussi, c'est pratique.
Oui, les lignes de touche, super bien. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense que le Parti démocrate avait beaucoup plus investi l'univers numérique qu'il ne l'avait fait en 2016. Là où, et c'est intéressant, là où les deux partis ont été totalement absents, et je pense que ça a été une variable qu'ils ne laisseront pas de côté la prochaine fois, c'est sur TikTok. Mmh. Et encore une fois, notre électorat jeune, lui, a évolué indépendamment de toutes les nébuleuses de réseaux sociaux et ont construit leur propre mouvement, alors que les deux campagnes avaient un peu laissé ce réseau-là de côté, au moins pour un temps. Donc les réseaux sociaux n'ont pas joué le même rôle parce que les deux équipes jouaient quand même globalement à armes égales dans ce domaine-là. Je pense que c'est différent. Trump son parti, son comité de réélection est en place.
Son super PAC est déjà prêt.
Super PAC est déjà prêt et l'argent qu'il réclame pour le soutenir dans ses luttes juridiques pour le recomptage, en fait, est déjà amené vers ce super PAC-là. Ouais. Donc, la construction est déjà là. Il a toujours pour lui des gens comme Roger Stone. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Stone était présent en 2000. Il est présent derrière la campagne de désinformation actuelle. Mm-hmm. Et toute la campagne de désinformation qui cible aujourd'hui les minorités va jouer un rôle déterminant juste dans l'élection de la Géorgie. Il y a déjà là toute une campagne pour créer cette impression que l'élection lui a été volée. Donc oui, dans un sens, il est perdant, mais encore faut-il que les gens croient qu'il est perdu. Et il y a tout un travail qui est fait vers les Hispaniques et sur les réseaux sociaux,
en fait,
et vers
les Afro-Américains. Lui, maintenir la ligne qu'il s'est fait voler l'élection, c'est soit bon pour s'il se représente, ou alors c'est bon pour l'influence qu'il veut garder auprès de la politique américaine. Dans un cas comme dans l'autre, il s'en sort en disant « j'ai pas vraiment perdu ». De toute façon, Donald Trump n'avouera jamais qu'il a perdu. Il fallait qu'il se trouve une raison de toute manière. Alors, il en était là. Ginette, j'ai une question pour vous sur le Parti démocrate. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils ont perdu des sièges à la Chambre des représentants. Ils n'ont pas obtenu le Sénat à moins de deux victoires en Géorgie au mois de janvier. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas été la victoire attendue. Ça a été serré dans plusieurs États, même si au vote effectivement populaire, Joe Biden l'a emporté. Bon, Joe Biden va avoir 78 ans bientôt quand même, faut pas l'oublier. Certains disent que c'est un président de transition, on peut pas faire deux mandats. Là, il arrive. Il est un peu menotté par le Congrès. Il est un peu menotté par son âge. Est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose dans les quatre prochaines années, Joe Biden? Ou est-ce qu'il est déjà ce qu'on appelle un canard boiteux avant même d'avoir pris place à la Maison-Blanche?
Ça, c'est l'aspect personnel, son âge, et puis son programme électoral. Faites allusion ici à la division au sein du Parti démocrate.
Aussi, la gauche plus militante au sein du Parti qui en veut plus.
On va voir un peu avec la Géorgie jusqu'au 5 janvier comment ça va se jouer, et j'ai l'impression qu'il va intervenir. À l'heure actuelle, je pense qu'il est, il s'est défini lui-même comme à la tête d'une coalition et un président de transition. Et par le fait même, ça invite une nouvelle génération à s'affirmer. Son programme électoral est beaucoup plus progressiste qu'il ne l'a jamais été dans le passé. Il a pris, sans prendre totalement le programme de Alexandra Ocasio-Cortez du New Green Deal. En fait, ouais. Il a tout un programme. Son programme économique est basé justement sur une économie durable, une économie verte, des technologies vertes, la construction des infrastructures. Donc, il a adopté beaucoup de choses. Il veut aller de l'avant aussi pour améliorer Obamacare, etc. Donc,
mais est-ce qu'il va être capable d'y arriver?
Ça, c'est l'autre question. C'est-à-dire, il y a ces divisions au sein de la Chambre en particulier, entre les progressistes, etc., qui vont vouloir faire valoir leurs intérêts. Et d'autre part, les modérés, et dans le Sud, c'est surtout l'approche plus modérée qui va gagnante, parce que le Sud, la Géorgie, reste un État encore très conservateur. Donc, pour gagner plus de votes et réussir à faire élire des sénateurs démocrates, il va falloir être plus modérés, ils n'ont pas adopté. Mais la méthode Mitch McConnell va s'appliquer comme elle s'est appliquée aux deux dernières années de l'administration Obama, c'est-à-dire s'il n'y a pas un nombre équivalent de sénateurs, donc 50 déjà républicains, mais là, on verra le résultat. Si la Géorgie n'arrive pas à élire un sénateur au moins, mais il y aura donc avantage républicain. Et McConnell va jouer le même jeu. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est lui qui porte porte le parti maintenant et qui gobe ce qu'il veut bien gober. Et il fait ce qu'il veut du parti. La simple illustration du choix de la nouvelle juge à la Cour suprême est un exemple patent de ce que peut faire ce type-là qui est un jusqu'au boutiste. Il a refusé à Obama au début de l'année électorale en 2016 de considérer son candidat pour remplacer un juge à la Cour suprême sous prétexte qu'on était en année électorale en janvier-février, alors que là on est à quelques semaines de l'élection et il est allé de l'avant. Il fonce, il fait ce qu'il veut, il parle pas fort, mais il est un dur.
Elisabeth,
on
a beaucoup parlé de l'expérience de Joe Biden au Congrès. Il est une créature du Congrès. Est-ce qu'il serait capable de manœuvrer avec une faible majorité républicaine au Sénat, par exemple, d'une voix? Est-ce qu'il est capable d'être suffisamment, au centre, justement, d'une certaine coalition pour être capable de faire passer certaines de ses mesures? Ou il va avoir Mitch McConnell dans le collimateur pendant toutes les prochaines années, puis il est menotté, dans le fond?
Mais je pense que ce que dit Ginette est vrai. En t'écoutant parler, je me disais ce qui manque aujourd'hui à la tête du Parti républicain, c'est l'intégrité. Et effectivement, à l'intégrité, on a substitué le jusqu'au boutisme. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent également comment on parle beaucoup de polarisation, mais comment cette polarisation est dans un sens asymétrique. Le Parti démocrate a un peu bougé sur sa gauche récemment, mais pas tant. Le Parti républicain a beaucoup bougé sur sa droite et est beaucoup plus allé dans le domaine de l'illibéralisme. On parle beaucoup de démocratie illibérale quand on parle de la Hongrie, quand on parle de la Turquie, avec ces partis qui sont au pouvoir, qui ont fait glisser des démocraties hors de l'état de droit. Et au niveau du leadership républicain, c'est particulièrement sensible ce glissement vers l'illibéralisme. Donc le fait qu'on ne favorise plus l'accomplissement, l'aboutissement de la démocratie...
gagné à tout prix.
Là, c'est gagner à tout prix, quels que soient les outils. Puis quand on regarde les outils, il y a d'autres études qui montrent que les outils qui sont employés par le Parti républicain, c'est la démonisation, c'est l'endossement de la violence. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui évoluent, qui font que, effectivement, je pense que Joe Biden, dans un autre monde, dans un monde où le Parti républicain aurait été ce qu'il était, parce qu'il y a de bonnes personnes au Parti républicain, il faut vraiment dire que...
il y a une droite raisonnable aux États-Unis, ça existe.
Il y a une droite raisonnable, bien sûr. Et ce sont des grandes coalitions parapluies. Mais là, elle est phagocytée, monopolisée par ces gens qui n'ont plus d'intégrité.
Charles-Philippe David, je voudrais vous amener sur le terme de la politique étrangère un peu avant de passer aux questions des téléspectateurs. Il nous reste 5 minutes. Évidemment, ça concerne le Canada, mais de manière plus générale, est-ce que Donald Trump était une parenthèse dans la politique étrangère américaine, cette espèce de façon très... cavalière de traiter ses alliés traditionnels, d'être à un tweet, de faire capoter un communiqué du G7 ou du G8 ou du G20, ou est-ce que, dans le fond, il a repoussé un peu la frontière de la normalité en politique étrangère américaine et que, dans le fond, Joe Biden, il y a certaines choses pour lesquelles il ne peut plus revenir en arrière. Comment vous voyez la politique étrangère américaine à partir de maintenant?
Ben, ça tombe bien, Alec, tu poses la question, parce que Elisabeth et moi, on y a justement répondu dans le livre sur « Comment Trump a-t-il changé le monde? »
Faites-nous un petit résumé pour ceux qui n'ont pas lu encore.
Notre réponse, OK, ben, on espère quand même qu'ils vont peut-être un peu lire le livre, surtout qu'il est court. Mais en un mot, je pense que Trump a été plutôt un accélérateur de ce qui avait déjà été tout à fait perceptible avant son arrivée, c'est-à-dire un changement dans le statut de la puissance américaine, dans le leadership américain, dans les relations internationales. Alors oui, effectivement, il aurait pu, ça aurait pu se passer très différemment, c'est-à-dire que ce changement est à peine perceptible ou en tous les cas, se fait plus lentement. Mais les années Trump auront accéléré cette perte,
direct, je vais droit au but, la perte du leadership américain dans les relations internationales. Je pense que c'est cela, d'abord et avant tout, que Joe Biden va vouloir évidemment essayer colmater ou de régler. Est-ce que les États-Unis peuvent reprendre ce leadership sur la scène internationale? Et ça se reprend pas juste avec un sourire, ce qui est son cas, ou avec des mots, des discours. Ça se reprend aussi avec des gestes et des actions très importantes. Par exemple, croire que les institutions internationales, ben ma foi, c'est un peu important. Qu'il faille bien peut-être que l'OMS, on y reste, qu'on quitte pas l'OMS.
Joe Biden a annoncé qu'il allait rester à l'intérieur de l'OMS, qu'il allait rejoindre l'accord de Paris. Voilà. Il y a quand même quelques indications sur ce qu'il peut faire. Maintenant, les Américains n'ont jamais été très multilatéralistes en général. Ils ont toujours eu une certaine méfiance en se disant « pas certain que c'est dans mes intérêts ». Comparativement à un pays comme le Canada qui en a besoin, entre autres, notamment
ces institutions-là. Ben, tu vois, Alex, ça, là, c'est un discours trumpiste qui s'est vraiment maintenant établi dans la société américaine de dire on ne croit plus à ce rôle important des États-Unis dans le monde. Je te blâme pas de moi-même, non, je le pensais aussi.
Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de rôle. Je fais juste dire qu'il y a toujours une certaine méfiance par rapport aux grandes institutions.
Ils
n'ont jamais été pro-onusiens. Ce n'était pas les plus onusiens.
Mais c'est ça. Les sondages du centre de recherche que citait Ginette Research qui fait de sacrés bons sondages dans ce domaine-là, démontre qu'une grande majorité des Américains estiment que les États-Unis doivent continuer de jouer un rôle actif sur la scène internationale, engagé dans les institutions internationales, doit être un porte-étendard dans un domaine qu'Elisabeth a un peu mentionné, les droits de la personne. C'est un pays qui doit être un peu un porte-étendard, même s'il est tout croche chez lui, mais dans ce domaine-là, ça doit être les États-Unis tout de même. Si vous perdez sur la scène internationale ce statut de leadership, ben le système international, il va changer d'autre manière. Et on explique dans le livre que la Chine profite actuellement certainement de cette crise, on va l'appeler comme ça, de leadership américain. Aussi de l'image ternie des États-Unis dans le monde. Le même institut de sondage Pew montre que la réputation des États-Unis est à son plus bas depuis au moins George W. Bush, qui nous ramène à autre chose et d'autres problèmes. Donc, tout ça est à régler, est à colmater, est à solutionner.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, par exemple, que d'avoir, mettons, un Joe Biden plutôt qu'un Donald Trump pour nos relations internationales à nous qui avons besoin de ces institutions-là pour avoir une voix dans le concert des nations? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que j'imagine que c'est quelque chose qui va être plus simple pour le Canada que d'avoir un partenaire qui croit un petit peu plus à leurs efforts internationaux, là, aux efforts internationaux?
C'est sûr que sur la forme, les choses vont changer de façon drastique parce que Joe Biden, il ne faut pas oublier qu'en décembre, peu après l'élection de Donald Trump, en novembre 2016, il est venu au Canada faire une visite d'amitié. Je ne sais pas s'il avait déjà en tête qu'il serait président un jour, mais voilà.
Ça c'est un souper d'État très payant, en tout cas, qu'on l'accueille à quelques mois de son départ de la Maison-Blanche à l'époque où il était vice-président.
Voilà. Alors, il y aura certainement sur le plan de la forme une relation diplomatique, bilatérale, beaucoup plus ouverte, je dirais, plus prévisible, et plus facile à suivre pour les diplomates parce qu'on verra au Sénat ce qui se passe à la Chambre des représentants, etc., dans les instances de l'administration, où s'en vont les politiques et les changements. Sur le plan du contenu, c'est clair qu'on va avoir une présidence qui va ressembler à celle d'Obama, déjà, dans le sens du protectionnisme et dans le sens de Donald Trump, moins l'imprévisibilité, c'est-à-dire que le Buy American va recommencer et les négociations vont se faire pour obtenir des parts de marché pour nos produits, etc. Donc, surtout s'il y a un plan de construction, de réfection des infrastructures, il y aura énormément de possibilités d'accès à des produits canadiens. Il va falloir négocier fort, mais ça sera beaucoup plus prévisible et plus civilisé, je pourrais dire même.
Elisabeth, sur le plan de l'environnement, l'une des questions qu'on a reçues et concerne l'environnement, parce que je le disais, on veut réintégrer l'accord de Paris du côté de Joe Biden, mais ça reste un accord international. Maintenant, est-ce que lui, aux États-Unis, va vraiment être capable de mettre le pied sur l'accélérateur? On sait qu'il veut utiliser plus d'énergie renouvelable pour la consommation d'électricité, d'avoir des infrastructures vertes, mais est-ce que concrètement, les États-Unis vont jouer le rôle de leader qu'on attend d'eux depuis tellement d'années en matière de lutte au changement climatique, ou c'est encore des belles paroles, puis finalement, c'est pas certain qu'il va y avoir de grandes différences dans les quatre prochaines
mais
années.
Dans les États des Grands Lacs qui ont reviré leur veste deux fois en quatre ans, il y a justement des travailleurs de ces industries-là qui sont très favorables en fait à la promotion des énergies renouvelables, qui voient déjà que l'avenir est là-dedans. Donc on commence à avoir un changement de discours dans certaines catégories de population qui ont été à un moment donné favorables à Trump. Donc l'évolution est là. L'intensité de la dérégulation des normes environnementales aux États-Unis par Trump est telle que juste renverser ça, juste revenir au point où on était il y a quatre ans, va probablement prendre la totalité des quatre années.
Ah oui, à ce point-là. Hein? Ouais.
Il y a ces éléments-là. Et puis, pour rejoindre ta question précédente, le fait qu'au niveau international, il y ait des que les États-Unis n'aient plus ce rôle de leader. Ça a une incidence également, le fait que la Chine soit à la tête de certaines institutions clés à deux coins de rue d'ici, l'OACI. Ça change la manière dont on formule les normes, la manière dont on les conçoit, même au niveau des droits de la personne. On a déjà vu que la Chine est à la tête aussi d'un organisme onusien. On a vu que la notion de droits économiques peut supplanter celle de droits de la personne en temps normal. Donc les États-Unis partent, leur point de départ aujourd'hui est bien plus en retard, ou je ne sais pas comment formuler, mais
moins intéressant.
Et, oui, ils partent de plus loin, c'est ça qu'ils partaient il y a 4 ans, mais de beaucoup plus loin. Et juste regagner ça, ça va prendre plus de 4 ans. Donc je pense qu'on est en mauvaise posture, mais l'incidence des changements climatiques partout aux États-Unis. On a déjà des réfugiés climatiques aux États-Unis. On a des gens
Les tempêtes sont de plus en plus violentes, donc il y a des conséquences économiques importantes,
Les
ouragans.
Mais déjà validés par le gouvernement fédéral, il y a déjà des programmes de relocalisation de gens dans le sud de la Louisiane qui doivent quitter les îles sur lesquelles ils vivent parce qu'elles ne sont plus habitables. Donc, les changements climatiques étant visibles, on peut aussi imaginer que ça soit un facilitateur pour admettre la nécessité et l'urgence climatique. Ceci étant dit, il y a une urgence pandémique qui ne fait pas bouger les gens tant que ça. Donc, qu'est-ce que ça va prendre comme urgence climatique pour qu'on réagisse?
Charles-Philippe, David, j'ai une question concernant la politique étrangère des États-Unis sur le Moyen-Orient. Petite question simple comme ça. Prendre un bon 15 secondes pour y répondre. Non, mais il y a l'Iran, il y a Israël. À quel point ça peut être modifié dans les quatre prochaines années?
Bien, ça, je pense que c'est un dossier dans lequel Joe Biden va probablement marcher sur des œufs parce que les dommages ou en tout cas les faits accomplis, on va les appeler comme ça, laissés par Trump, va laisser un héritage. Donc, pas simple, pas facile pour Joe Biden. Surtout que dans ce domaine-là, plus que jamais, politique intérieure et politique étrangère sont liées. Parce que l'aile gauche du Parti démocrate, et je rebondis sur ce que disait Ginette, là, l'aile progressiste, veut du changement, veut que la politique étrangère américaine soit beaucoup plus dure à l'égard d'Israël qu'elle ne l'a jamais été. Alors que Joe Biden lui-même a toujours été extrêmement prudent et plutôt pro-israélien dans la manière de gérer une relation avec calme et sérénité. Ce qui veut dire, en langage clair, on ne tape pas sur les doigts d'Israël. Alors, ça va être un acte de haute voltige. Je reviens aussi sur l'Iran. L'Iran, c'est peut-être le dossier de politique étrangère dans lequel, à mon humble avis, Trump peut laisser, là, vraiment, j'allais dire le gâchis, mais en tout cas, des explosifs dans ce dossier-là pour le tiroir de Joe Biden quand il va l'ouvrir, parce que, actuellement, l'Iran croit de moins en moins que même la parole américaine, même avec Joe Biden, peut être respectée à terme. Et donc, ils ont repris leur programme d'enrichissement d'uranium avec les centrifugeuses nécessaire, ce qui veut dire qu'il se donne l'option encore de devenir un pays peut-être nucléaire. Ça, c'est quelque chose qui est dû au fait que les États-Unis ont abandonné l'accord nucléaire. Est-ce que Joe Biden peut vraiment y revenir? Je pense que ça va être très, très difficile parce qu'une partie même du gouvernement iranien, je pense, ne veut plus de cet accord.
Et ça faisait leur affaire, dans le fond.
Et j'ai en tête les gardiens de la Révolution qui se disent « c'est quand même la preuve que la meilleure chose à faire est d'avoir nous-mêmes peut-être l'arme nucléaire ». Mettez tout ça... c'est vraiment, vraiment une boîte de Pandore et je pense que Biden va avoir à gérer l'héritage Trump et les tensions à l'intérieur même de son parti et à la Chambre des représentants notamment pour pouvoir décider d'une orientation vis-à-vis Israël autant que l'Iran et l'Arabie saoudite qu'il ne faut pas oublier aussi, pour laquelle on s'attend des changements importants.
Le plus grand dommage qu'aura fait Trump, c'est la confiance. On savait que lorsque les États-Unis donnaient leur parole pour quelque chose, notamment dans le système des alliés, on savait que ça allait être qu'on pouvait s'attendre lorsqu'une entente était conclue comme l'OTAN, que la clause d'assistance en cas de danger serait appliquée. On sait, nous, au Canada, que dans le périmètre de sécurité, que si notre sécurité est en danger, les États-Unis, en vertu des accords, have our back. Donc on sait que ça fonctionne. Sauf que là, on ne sait plus ce que vaut la parole américaine. On ne sait plus ce que vaut la valeur d'un engagement signé par Obama qui va être déchiré par peu importe qui arrive derrière. Et je pense que la destruction de cette confiance est probablement le plus gros dommage. Et ça, là, ça va prendre plus que 4 années, plus que 2 mandats pour pouvoir restaurer ça.
Ginette, j'ai une question concernant Cuba. Parce qu'il y a des communautés cubaines en Floride qui ont voté pour Donald Trump. Alors que, dans le fond, Barack Obama avait un peu normalisé les relations avec Cuba lorsqu'il était là. Joe Biden était son vice-président. Clairement, ça n'a pas fait leur affaire. Ils ont voté pour Donald Trump. Est-ce qu'on a un changement à y avoir avec Cuba dans les 4 prochaines années? Comment vous voyez la relation entre les États-Unis et Cuba à partir de maintenant?
Je ne sais pas. Ce ne sera certainement pas la priorité de Joe Biden de reprendre ce dossier-là.
Il y a trop de priorités. Alors, à un moment donné, il faut choisir.
Mais je dirais qu'il est vrai que les jeunes Cubains avaient voté et ils ont, jusqu'à un certain point, favorisé la victoire de Barack Obama en 2008 et peut-être moins un peu en 2012, mais quand même. Et ça, c'est ce vote-là a été perdu aux dernières élections. Ce qui a changé, et on parle beaucoup du fameux comté Miami-Dade dans le sud, où ce vote cubain, le vote aussi vénézuélien qui s'est ajouté, qui est très conservateur, est traditionnellement conservateur, est redevenu extrêmement conservateur. Donc, c'est la propagande qui a fait vraiment, à mon avis, qui a joué un rôle extraordinaire, c'est-à-dire cette propagande avec les démocrates. Vous allez avoir un régime socialiste, communiste, et ce sont des gens, quand on évoque ces images-là, chez les Cubains, chez les Vénézuéliens, c'est quelque chose qu'il faut fuir à tout prix. Ce message-là, il n'est pas compliqué, c'est de la propagande pure, c'est du mensonge, mais il a eu beaucoup, beaucoup d'écho, non seulement auprès des Cubains et des Vénézuéliens, mais les Portoricains aussi, qui ont voté en plus grande majorité démocrates avant, qui ne sont pas nécessairement dans la même région, plus du côté d'Orlando, et la portion des Portoricains en faveur du Parti démocrate était moindre un peu cette année. Donc, voilà, c'est toute l'organisation de la campagne de Donald Trump qui a commencé en 2016 et on a vu les résultats, une Floride beaucoup plus pro-républicaine à 3 points, je pense, cette fois-ci, alors qu'il avait gagné avec une marge de 1 point seulement en 2016.
3 points en Floride, c'est beaucoup. C'est une claque d'en face, là. C'est beaucoup, là, pour un État qui se décide par souvent à peine 1%. J'ai une question concernant la Cour suprême des États-Unis. Parce que là, maintenant, elle est clairement orientée. Donald Trump a nommé plusieurs juges, dont la dernière quelques jours avant les élections. Mais j'ai une question qui touche la Cour suprême en parlant spécifiquement de est-ce qu'on va rouvrir l'avortement, le fameux Roe contre Wade? Est-ce qu'on s'en va là? Il y a une question en disant, ben là, est-ce que, dans le fond, il faut s'attendre à ce que les États-Unis, maintenant, sur le plan intérieur, soient modifiés par la composition de la Cour suprême au fil des prochaines années?
Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on a une cour beaucoup plus conservatrice qui donc va pencher et définir le droit de manière plus conservatrice sur probablement le quart de siècle qui s'en vient, parce que la juge qui vient d'être nommée est jeune. Non, parce que c'est pas parce qu'une cour ou parce que des juges sont nommés par des conservateurs qui vont forcément toujours voter côté républicain. Il faut vraiment, c'est important de dire que la Cour n'est pas partisane. En fait, les juges qu'on a là sont pour beaucoup des partisans des intentions premières. C'est-à-dire que pour eux, on prend la Constitution en l'état au moment où elle a été adoptée à la fin du 18e siècle.
Elle n'évolue pas.
Elle n'évolue pas et on regarde les termes comme tels. Et une des conséquences pour l'avortement, et c'est là où c'est net, c'est que l'avortement, la Cour suprême dans Roe versus Wade avait dit on établit une espèce de base où on s'assure que les femmes aient accès au droit à l'avortement dans le premier trimestre. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du terme de la grossesse, les États fédérés ont de plus en plus de pouvoir. Revenir sur Roe versus Wade, c'est pas interdire l'avortement, c'est pas ce que ferait la Cour suprême. Mais la Cour suprême redonnerait en fait de plus en plus de pouvoir aux États fédérés, libres à eux de déterminer
à partir de quel moment,
etc. Et c'est derrière ça, il y a toute la stratégie des groupes qui sont des groupes pro-vie, qui ont pour donc anti-avortement, qui poussent à faire adopter des lois dans les États, par exemple en Alabama, interdisant complètement l'avortement. Oui. On sait que c'est anticonstitutionnel. Il y a beaucoup de ces lois-là qui sont adoptées. Le but, c'est de les amener en Cour suprême des États-Unis et qu'à un moment donné, la Cour suprême dise « Vous ne pouvez pas faire ça, mais c'est quand même l'État fédéré qui décide. Mm-hmm. » Donc, ça serait redonner en fait du pouvoir à l'État fédéré, ce qui est la philosophie de la fin du 18e siècle où la logique était confédérale et pas fédérale.
Donc, on a une Cour qui est idéologiquement conservatrice, mais pas nécessairement républicaine.
C'est ça.
Mais donc, ceux qui espèrent avoir plus d'interprétations modernes de la Constitution actuellement doivent être un petit peu inquiets.
Ben, l'État-providence n'est pas dans la Constitution du 18e siècle.
Voilà.
Je pense que c'est vraiment là où Biden ou son administration va rencontrer des écueils.
Bon, ben merci à vous trois. C'est ce qui amène la fin de notre panel. Je voudrais d'abord évidemment remercier ceux à la maison qui nous ont écoutés. Merci énormément d'avoir été là. Je pense que ça a été fort enrichissant. On aurait pu en continuer à parler encore pendant des heures. La politique américaine est tellement riche. C'est tellement une société complexe, intéressante, mais complexe que celle des États-Unis. Donc, c'est toujours intéressant d'en entendre parler. Ceux qui veulent poursuivre leur réflexion à la maison, il y a les livres de nos auteurs qui sont ici. « Comment Trump a-t-il changé le monde? » qui vient tout juste de paraître, effectivement. Charles-Philippe David, Elisabeth Vallet. « Rouge, blanc, noir, le sud des États-Unis », une belle brique de 650 pages. Si vous avez envie de comprendre le sud des États-Unis, c'est vraiment à lire de la part de Ginette Chenard qui est avec nous. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci de vos éclairages. Ce fut, ma foi, fort intéressant. Et ceux qui sont à la maison, ben, restez branchés. Le programme du Salon du livre se poursuit dans les prochaines heures, prochains jours même. Donc, restez avec nous. Alors, merci. C'est Alec Castonguay qui vous dit ben, bonne fin de journée. J'espère que vous n'avez pas passé à travers toutes vos grignotines, qu'il vous reste quelques crottes de fromage et un bon petit vin pour la fin de la soirée. Merci.
Merci,
au revoir.
Merci, Alec.
Au revoir.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.